monumentale erreur.
Yes! Stick around.
May I see your invitation, please?
Sure. Here's my invitation.
Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard?
Il y a toujours quelqu'un dans le placard.
What happened to Buzz?
Ah, he had to split.
Être ou ne pas être. Ne pas être.
L'épisode 7.
Ah merde. Ça commence bien.
Et tu commences juste au moment où j'appuie sur l'enregistrement.
Sinon, c'est pas drôle.
Voilà. Alors, mon ami Charzy, épisode je sais plus combien, mais on parle de Junior. Avec Junior.
18.
18 déjà. Oh là là. Tu sais, 18. C'est l'âge que j'aimerais que tu aies là tout de suite. Comme ça, je pourrais te dire d'aller te faire voir. Mais non, 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 non. T'es plus proche de 18 mois que 18 ans. Bon. Avec moi pour ce film. Comment dire ?
Pas le meilleur, pas le pire.
Ouais, voilà. On a Florian.
Bonsoir.
On a Olivier.
Bonsoir.
Et on a Elodie qui pense qu'on n'a pas vu qu'elle a mis un truc de Mario, mais en fait, c'est un truc de Mario.
C'est non pas du tout un truc de Mario.
Ah,
c'est pas
j'ai cru. Mario, ah,
c'est Superman.
C'est Superman.
Non, c'est la version autrichienne, excusez-moi.
Ah, Superman, ah oui. Ah, oui. Non, la version allemande, c'est Kartoffelmann. Zeus Kartoffelmann. Voilà, comme ça vous apprenez aussi l'allemand avec Monsieur Siri. Vous savez dire patate et patate douce, c'est bien.
Ça peut toujours être utile.
Ça peut toujours être utile.
Conquérir
donc on a vu
germanophone.
Ah bah oui, il faut. On a eu le Brésil. Mais de rien. on a vu donc Junior, qui est un nouveau film de Ivan Reitman, avec encore Danny DeVito. Il n'y en a eu que un, mais bon, encore, quand même. Et plein d'autres acteurs qui étaient dans d'autres films de Charzy. Et à croire que c'était une espèce de retrouvaille. Hein, la bande à Ivan qui se retrouve autour d'un film. Un scénario qui tient sur une dépêche, je pense. Parce que je ne sais pas si c'est ça. Elodie nous le dira après, mais... Le scénar, c'est quelque chose. Donc, en gros, on parle de Schwarzenegger qui joue le rôle de Alex Hess, un Autrichien, voilà, qui travaille aux États-Unis et il est sur le point de trouver un traitement qui permet aux femmes d'avoir des grossesses sans risque grâce à une espèce de petite drogue, de petits médicaments. Mais bon, voilà, les autorités. N'en veulent pas. On remerciera quand même le gynécologue Larry Arbogast, joué par Danny DeVito, qui te vend ça comme il te vend une voiture. Hein, on va dire clairement les choses. Et bon, ça leur plaît pas trop. Et entre-temps, il y a Diana Reddin, qui est jouée par Emma Thompson, qui arrive et qui est censée, elle, faire son autre recherche sur, justement, la fécondation. Et donc, ça leur plaît pas. Et ils disent, c'est facile, on a tout ce qu'il faut sous la main. Toi, t'es un homme, oui, tu peux être enceinte. Enfin, enceinte. Oui.
Bah, c'est
mais
ça,
enfin,
le problème.
Voilà. Et c'est là où on se dit, vous avez été loin quand même. Vous avez été loin quand même.
Oui,
mais bon.
Ça pose des problèmes d'anatomie quand même. Hein.
Ça pose des problèmes d'anatomie, ça va en poser dans le film. Hein,
mais pas assez.
Mais pas suffisamment, non, effectivement, parce que, bon, la cavité pelvienne, est-ce qu'elle est, je pense pas qu'elle soit vraiment prévue dans l'ADN pour s'étirer autant chez l'homme que chez la femme. Je me trompe peut-être, je suis pas médecin, mais tout ceci me paraît bien, bien étrange. Et donc voilà, c'est de ça dont parle ce film, sorti en 1994. Et donc, ça nous fait quand même un petit 27 ans. Voilà.
Un petit 27 ans des familles, quoi.
Voilà, un petit 27 ans des familles, se dire qu'il y a une partie de ceux qui nous écoutent qui n'étaient pas nés. Et que,
comme
globalement, moi, au moment où j'ai pu voir le film, j'étais peut-être un peu jeune aussi. Voilà, 11 ans, c'est un peu jeune pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ce film de toutes les... Comment dire, ce film qui peut oser, il ose des choses, il dénonce aussi beaucoup de choses, hein. Mon corps, mon choix, n'est-ce pas ?
Mon Dieu.
Ah, c'est le, c'est, ça va loin, ça va loin. Je sais pas si c'est vraiment, ça pose problème ou pas à certaines associations, mais je pense qu'il y a de quoi dire. Oui, et Junior continue à répondre. Parce que tu ne veux pas dormir, toi. Voilà. Ça te fait rire. Donc, ça va être simple. Donc, Elodie, que je puisse faire un petit mute. Parle-nous de facts.
Oui. Bah, comme d'hab, je commence par le budget, même si là, je vais passer vite parce que je vais approfondir quand je parlerai de la sortie ciné. Donc, le budget, il est assez modeste, on va dire, par rapport à ce qu'on a eu avant, mais 60 millions. Sauf que le problème vient... de ce qu'il a engrangé, parce que les recettes, c'est un peu plus de 108 millions, mais au niveau mondial. Ce qui n'était pas ouf, il s'attendait à beaucoup plus.
Il en sortit l'été, hein, Elodie ?
Non, alors attends, j'y reviendrai.
Excuse-moi.
Et j'y reviendrai à la fin, mais ouais,
du coup, ils ont eu... Je suis en train de ton conducteur, pardon.
Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. À la base, c'était Brian Levant qui devait réaliser le film. Juste avant, il avait fait Beethoven. Mais en fait, Schwarzy, il a refusé de jouer dans Junior tant que ce serait pas Reitman qui serait à la réalisation. Donc du coup, ils ont viré Levant, mais c'est pas grave, parce qu'il va vite revenir dans la course aux jouets en 96. Donc je pense que Schwarzy était déjà bien assez bankable pour qu'on lui dise « Oui, bon, d'accord, on te prend toi et le petit nouveau, là, allez, retourne faire mes muses avec le chien-chien. » Et tu reviendras dans quelques années. Donc, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pire ? Je sais pas. Parce que dans les deux cas, je sais pas si Brian Levant aurait fait un meilleur travail, puisque de toute façon, le gros problème, je pense que c'est le scénario. Enfin bon, on y reviendra à la fin.
Tu veux dire que les ventes auraient été meilleures ? Désolé. Je recoupe.
Je retourne dans ma caverne. Comme dans les films précédents, on disait que Schwarzy, en général, il préparait bien ses rôles, notamment physiquement. Alors là, il a préparé son rôle, beaucoup moins physique. Là, il s'est...
En buvant de la bière.
Il aurait pu. Mais là, il s'est plutôt attelé à squatter dans des salles d'attente de gynéco pour discuter avec les nanas et pour apprendre comment une femme enceinte, ça se comporte, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait. Bon, heureusement, il est resté dans la salle d'attente, sinon ça aurait été gênant. Mais il s'est aussi entraîné à porter son faux bidon. Donc, quelques jours avant les scènes de tournage du faux bidon, et bah, il se baladait tout seul avec son faux bidon pour essayer de voir comment on marchait avec un faux bidon. Et franchement, ça doit être drôle de voir la grosse carrure de Schwarzy voir « Alors, comment je marche avec mon gros bidon ?» Mais pourquoi ?
Ça faisait un petit effet comme dans les Tortues Ninja, là, comment il s'appelle encore, Crank ou je sais pas là. Ouais. L'espèce de géant avec le cerveau. C'est un peu cet effet-là, quoi.
C'est vrai. Le petit être humain a un peu la même tête. D'ailleurs, bon, on dira ce qu'on pensera du film, mais même Reitman, il est assez conscient de la réalité, du résultat. Et donc, il décrit son film comme « Ok, c'est pas le meilleur, mais c'est son préféré. » Alors, je pense qu'il a un petit attachement, surtout aux acteurs avec qui il a fait le film, parce qu'on peut considérer que ça devient une petite trilogie non officielle, parce qu'on reprend les mêmes et on recommence un peu. Et ça reste un peu dans le même esprit... on va dire pas très très sérieux de jumeaux et tout ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il a un petit attachement personnel, mais surtout aux personnes plutôt qu'au film en lui-même. Comme on disait tout à l'heure, le film essaye de dénoncer des choses et ça aurait pu aller plus loin, parce qu'il y a une première version du film qui a été montée où il devait se terminer sur une scène d'avortement. Mais, comme on peut s'en douter, le studio, il a dit non, non, non.
Bah, tu m'étonnes. L'horreur.
Donc ils ont dû retourner des scènes pour pouvoir finir le film, parce que à la base ça devait pas du tout se terminer comme ça. Donc voilà, bon, les scènes ont disparu dans la nature, hein, aucun moyen de la voir, mais voilà. Donc justement, la sortie ici,
en même temps, très franchement, t'aurais envie de voir une scène d'avortement?
Ça serait arrivé comme un cheveu sur la soupe là quand même.
Parce que je sais, ça, c'est le genre de choses que je pense qu'il doit être très très intime, ça doit pas se montrer, quoi que ce soit, et puis au cinéma, ça risque d'être vraiment très très gênant, et le film est déjà assez cringe, comme ça pour rajouter le côté violent de la chose, quoi, en gros.
Bah ouais, pas, puis je vois pas comment ça serait.
Et puis surtout, qu'est-ce que tu veux dénoncer par, enfin, qu'est-ce que tu veux dénoncer par là, surtout.
Bah ouais.
Je vois pas, je comprends pas.
Bah, le fait qu'un homme peut pas faire d'enfant. Il y a un moment donné, on le fait sortir comment
La césarienne.
Ouais, mais enfin, par exemple, il a des contractions, mais ça sert à rien des contractions puisque son corps ne peut pas l'expulser. Donc c'est
comme. Ou alors de façon alien, mais.
Ouais, ou comme un calcul rénal.
Ah ouais, mais là ça va faire très mal. Là, ça va faire vraiment très mal.
Je ne peux pas imaginer.
Donc ce soir, on est en train de fabriquer la version réaliste de ce film, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais, d'accord. Je suis pas prête.
La version Arte.
Version Arte, d'accord.
En allemand.
Sundance Channel.
Sous-titré polonais.
Bienvenue dans Trax. Donc du coup, pour la sortie ciné, en fait, le film est sorti pour le week-end de Thanksgiving. Parce que, voilà, il se disait, c'est le bon moment pour le sortir, parce que comédie familiale avec Schwarzy et De Vito, il pensait que ça allait surfer sur la vague de jumeaux qui avait très bien marché. Voilà, ça va être le film qu'on va aller voir en famille pendant les vacances, tout ça. Effectivement.
Et puis Schwarzy ressemble à une dinde.
Bien farci, en tout cas.
mais ça allait bien farci, ça. Hein.
Le film, il a été numéro 1, mais que pendant 3 jours. Bah justement pendant le week-end de Thanksgiving, et en fait il est directement passé 4e position, puis il a fini de dégringoler jour après jour, même les films de Noël passaient avant lui, quoi. Donc les États-Unis, le nombre d'entrées a été hyper décevant, il y a eu uniquement 37 millions de dollars de recettes, donc la moitié de ce qu'il a coûté à peu près, et donc le film il s'en sortira finalement, mais uniquement avec la sortie internationale qui va un peu rattraper le coup et les faire rentrer dans leurs frais, mais c'était vraiment un gros échec commercial. Pareil, niveau de la critique, assez tiède. Franchement, on a lu pire sur les premiers films qu'il a fait, mais je crois que personne... En fait, il est vite tombé sous le radar, et donc tout le monde s'en foutait un peu. Le seul truc qui est ressorti de positif, c'était la performance de Schwarzy. Il disait que voilà, c'était le mec parfait pour tenir ce rôle parce que c'est le dernier truc qu'on attendrait de le voir et qu'il faisait très bien le contraste. Mais après...
Qui a dit ça ?
On va y revenir. Je suis très très sceptique par rapport à ce qui est dit.
Oui, ah, moi ouais. Aussi.
Mais voilà, mais après...
très sceptique.
Le gros des critiques, c'était en fait...
Comme la fosse.
Le film n'est pas assez drôle pour soutenir le concept ultra délirant, quoi. Et c'est du coup le... Enfin, ça donne un résultat assez bizarre, quoi. C'est censé être une comédie. Tu pars d'un concept quand même assez what the fuck, qui est quand même assez surréaliste. Et finalement, tu, à un moment donné, tu sais plus si tu dois rire ou si tu dois pleurer ou si tu dois prendre peur, quoi. Donc voilà, en gros, c'était pas drôle, pas bien fait, mais Schwarzy sympa, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé de fun sur le film, mais sur les hommes enceintes, eh bien en fait, Schwarzy n'était pas le premier. Avant lui, déjà, il y a eu, en 78, il y a eu Rabbit Test, réalisé par John Rivers avec Billy Crystal. Qui incarne Lionel, un professeur ayant très peu de succès avec les femmes et qui va
rester. Ah, mais ouais!
Qu'est-ce qu'on lui présente le coup d'un soir après lequel il va tomber enceinte? C'est un mélange de 40 ans toujours puceau et Jane de Virgin, en gros.
Ah, mais et en fait, ce film-là, il est très peu connu. Mais ouais. Bon, après, c'est Billy Crystal et j'adore Billy Crystal. Et franchement, c'est à voir. Et le fait que tu me dises le nom puis Billy Crystal, j'ai eu des images qui viennent de flasher. En fait, on aurait dû regarder ça.
Le concept se casse la gueule, quoi. C'est plus mon ami Schwarzy, ça va être mon ami Billy, mais...
Ah, non.
Non. Mais encore avant ça...
Peut-être réhabilité. Je brainstorm. Mais...
On peut. Attendez, je prends un tableau. Avant ça, en France, en 73, nous avions Jacques Demy qui réalise l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Où Mastroianni incarne Marco qui tombe enceinte et qui devient une célébrité pour le grand bonheur de son salon de coiffure qui ne marchait pas très bien et devient l'emblème du nouvel homme moderne. Voilà, donc
avec des chansons, avec des chansons, donc c'est demi, donc il y a des chansons.
C'est un truc à Moulox quand même, comme.
Ah ouais, il y a
l'énorme différence en fait, c'est qu'ils ils accélèrent le rythme narratif. C'est que Junior, en fait, tu as la grossesse de Alexès pendant tout le film, et apparemment, d'après le résumé du film. Le fait qu'il se découvre enceint, et en plus enceint de manière assez avancée, et en fait le film continue genre au deuxième acte après qu'il ait eu le bébé, donc en fait ils le suivent genre bien après l'accouchement, etc.
Eux ils ont compris où s'arrêtait le cringe, en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi pour les hommes enceintes.
Ok, et juste à ce moment-là, elle décide de chanter, donc voilà.
Bah, c'est normal, on parle de Jacques Demy, donc.
Ouais, Jacques Demy.
Tu viens d'accoucher ?
Non, elle chante parce qu'elle voit des trucs derrière, ça la fait chanter, je vois pas. Faut
que t'arrêtes de lui donner de la drogue, en fait. C'est...
Et non, c'est naturel chez un enfant, tu sais. C'est naturel, on le perd avec l'âge, on le perd avec l'âge. Bon, effectivement, c'était. Des choses un peu spéciales. Il n'y a pas grand chose sur le film en lui-même.
Il n'est pas très connu, en fait. Donc,
Ouais,
il n'a pas atteint le statut de culte comme d'autres films qu'on a vus.
En fait, c'est clairement le film qui a essayé une fois de trop une recette qui avait marchoté jusque-là. Je pense que déjà, avec le Flic à la maternelle, ils avaient atteint un point très très loin, et je pense qu'il ne fallait pas aller plus loin. Dans le genre un peu improbable, hein, parce que à chaque fois, comme tu dis, c'est la trilogie qui n'en est pas une vraiment, mais bon, voilà, t'as Jumio, t'as le Flic à la maternelle, et tu as Junior qui pourrait être rattaché dans le Ivan Reitman Schwarzy Universe, si on veut, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui s'y retrouvent, mais là, c'est. Vous avez été beaucoup trop loin, et surtout, en fait, beaucoup trop loin. En étant, je pense que vous avez parlé pendant la critique, mais en étant bien tourné, relativement bien joué, etc. En fait, en tant que film dans sa production, il n'y a pas grand-chose à redire. Quoi. C'est ni une catastrophe, ni génial. Mais c'est le pitch à la base, c'est ça ne va pas. Il y a un truc là... Voilà, faut arrêter.
On sent que t'as du mal à digérer le truc. À processer la chose.
Le truc, c'est que je pense que le film, j'en avais pas un grand souvenir. Je crois que j'ai dû le voir deux fois, pas plus que ça. J'en avais pas un grand souvenir, à part quelques scènes. Mais globalement, rien. Et puis, en fait, le film, c'est pas... Oui, arrête de te porter les doigts. Comment tu crois qu'on reste vivant aussi loin alors que quand on est enfant, on se mord la main, on fait aïe.
Ben, on expérimente, après on sait.
Voilà. Non, mais voilà, globalement, ce film-là, je me suis pas ennuyé, mais je me suis pas non plus genre éclaté de rire. À part un début de, comment dire, de running gag qui finalement est mort dans l'œuf assez vite. La blague du quand Schwarzy remplit un pot, Danny DeVito qui fait « Ah oui, je pense que ça sera suffisant. » Il le dit deux fois. C'est avec du sperme et du pipi. Voilà.
T'as une énorme... Alors c'est ça, c'est que j'étais... Un des moments les plus cringe du film, en fait, qui en comporte quand même pas mal, c'est qu'ils font un gros plan sur l'énorme carafe de pipi que Schwarzenegger sort, dont DeVito n'a pas du tout besoin pour prélever le test, etc. Et en fait, tu vois, c'est ça, tu vois l'espèce de couleur orange et tout ça, mais j'étais en train de là, ils l'ont rempli de banga, en fait, ce truc, en fait, c'est censé être appétissant, c'est censé être, parce que c'est le pipi de Schwarzenegger, en fait, la caméra doit rester aussi longtemps que possible, etc. Et j'étais vraiment fasciné de voir à quel point ce film montrait les fluides, à quel point, corporels...
on parle du pipi, bon, à la limite, ok, niveau quantité, ça, c'est pas impossible, parce que c'est un peu difficile aussi de s'arrêter quand t'es sur... Voilà, mais la quantité de sperme qu'il te montre, et la tête que Schwarzy fait, ça va l'air d'être difficile. Il sort du truc et il est genre...
Et DeVito fait pas mal, way to go.
Mais non, en fait, très vite...
Félicitations.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Mais voilà, c'est vrai que niveau moment cringe, ben, Olivier, voilà, je te laisse la parole. Niveau critique, je pense que c'est... Oui, bien sûr. C'est ce qui peut définir ce film.
Oui, oui, non, mais c'est... Alors moi, c'est comme toi, j'avais pas un grand souvenir du truc. Moi, déjà, à l'époque, quand je l'avais vu, donc j'étais quand même assez jeune, je l'avais loué dans un vidéoclub. Et déjà, à l'époque, j'avais regardé ça de manière vraiment dubitative. J'avais relativement un mauvais souvenir du film. Donc là, je l'ai un peu abordé avec peur. Finalement, ça n'a pas été si désagréable que ça. Je trouve que finalement, il y a effectivement ces moments cringe là, qui viennent polluer le truc et tout. Mais sinon, il y a quand même quelques moments de comédie qui fonctionnent bien. Moi là, le sentiment que j'ai clairement en regardant le film, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il y a un gros miscast avec Schwarzenegger quoi. C'est-à-dire qu'au début, quand il est simple scientifique et qu'il est au milieu de son labo et qu'il est baraque comme personne et que tout le monde fait la moitié de sa taille. Et il y a un moment donné, on se dit, mais ils lui ont foutu des petites lunettes, une petite raie sur le côté pour le faire style. Le mec réfléchit toute la journée, mais on n'y croit pas une seconde, quoi. Ils lui font faire 2-3 abdos en sortie de lit pour dire, ah, regardez, on explique pourquoi il est aussi baraque, c'est parce qu'il fait un peu d'exercice. Mais globalement, pas.
C'est exactement ça, quand il sort, on voit qu'il fait ces espèces de tractions, je sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est pour ça qu'il est musclé.
Oui, c'est ça.
C'est comme ça qu'il les a eu tous ses abdos.
Et parce qu'il est d'Autriche aussi, c'est pour ça.
Sauf qu'un jour, il faudrait leur dire qu'il faut faire un peu plus que ça pour avoir autant de muscles, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, on se demande. Pour le coup, je trouve que jusqu'à maintenant, on a réussi, même quand il faisait pas des gros musclors, on a réussi à caser Chorzy dans des rôles où on a réussi à le camoufler et tout. Là, je trouve que ça marche pas du tout. Moi, le truc qui m'a permis de m'accrocher au film, c'est vraiment Emma Thompson. Je trouve que son personnage, donc elle est assez jeune. Moi, je trouve que son personnage est assez frais, assez sympa à suivre. J'aime bien le running gag du fait qu'elle soit hyper maladroite. Moi, c'est le genre de truc, ça me fait marrer. Et puis,
c'est qu'ils arrivent à l'utiliser correctement sur running gag, c'est que parfois ils ont même pas besoin d'insister. T'as compris qu'en fait c'était la maladresse.
Oui, et, c'est ça. C'est
quand notamment avec le bébé avec le pied dans le gâteau.
Oui.
Tu sais, ok, fin, d'accord, c'est son bébé.
Oui, on a bien compris. C'est ça. Et quand elle danse, elle a un bout de Kleenex qui reste sur sa chaussure. C'est
J'ai détesté ces scènes, mais on va en revenir ça après.
Mais bah moi franchement, d'abord j'étais content de voir Emma Thompson dans un rôle comme ça, parce que finalement on la voit souvent dans des rôles sérieux et tout, et là je trouve qu'elle apportait vraiment une bonne fraîcheur, un truc comme ça. Il y a l'énergie de Danny DeVito qui fait du Danny DeVito comme on le connaît. Il y a quelques scènes marrantes ou qui m'ont fait un peu rire, mais voilà, après globalement ça se regarde. Moi il y a la scène du la scène du bébé, enfin il fait un rêve où il accouche et donc il voit son bébé pour la première fois et sur le bébé on a foutu on lui a mis la tête de Schwarzy, c'est absolument ignoble, ça je peux pas. C'est vraiment là ils sont allés au bout de mes forces. Et en fait il y a un an je crois, j'étais tombé sur cette scène là par hasard en zappant à la télé, et quand j'avais vu ça je me mais c'est pas possible quoi. C'était absolument horrible, et là je me suis dit, ah merde, pour le podcast de Schwarzy on va devoir le regarder. Ça m'a fait encore plus peur.
Tout ILM est passé dessus, hein. Tout ILM, hein, pour faire ce bébé affreux.
Ah ouais, non mais c'est... Ah putain, mais
Pixar, c'est... Pixar aussi, hein.
Mais c'est le genre de truc, en fait, quand tu vois le résultat final, tu te dis, bah faut couper, en fait, c'est pas grave, l'idée était louable, mais le résultat est pas bon.
Ça apporte pas grand-chose.
Voilà.
Ou alors tu mets juste la vraie tête. Hein.
C'est très, très mal foutu.
Ou alors tu mets juste la vraie tête et tu vas à fond dans le « c'est mal foutu ». Tu mets sa vraie tête dessus, tu fais pas un truc en...
Mais je pense qu'ils ont été à fond dans c'est mal foutu, c'est-à-dire c'est un mix entre la tête de Schwarzenegger et le monstre de Frankenstein, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que, enfin, je trouve pas ça dérangeant. Enfin, je trouve ça ni dérangeant ni drôle, etc. Je trouve ça vraiment pathétique parce que c'est tu vois avec le recul que c'est fait avec les moyens du bord dans les années 90 et qu'ils ont planqué ce gag là parce que voilà quoi, il faut bien un gag pour introduire un tout petit peu l'espèce de peur ou de rêve prémonitoire de paternité de ça, ce que tu avais avec la toute première scène du film, quoi, tu vois. Donc en plus, c'est répétitif.
Suffisant, hein, cette peur-là.
C'est répétitif, hein.
Cette scène-là était suffisante, elle était même très bien, en fait, cette scène-là.
Ouais. Ah oui, le premier reste suffisait largement, quoi. C'est vraiment... Là, c'est vraiment... Enfin, moi, cette scène-là, elle me dérange vraiment. Donc, j'ai fermé les yeux. Je savais qu'elle allait arriver. J'ai fermé les yeux. Et après, sinon, le reste... Enfin, franchement, ça se laisse regarder, mais ça n'a pas un intérêt dingue. Je ne sais même pas trop quoi en dire. Hein. C'est... Effectivement, comme tu l'as dit, Fred, on a l'impression que c'est leur trip comédie de ce trio de Vito, Redman, Schwarzenegger qui est arrivé au bout du truc. Et je pense qu'eux-mêmes s'en sont aperçus, quoi.
Oui, je pense que tout le long, ils s'en sont aperçus. Puis ils se sont dit, bah, tant pis, foutu pour foutu, on y va à fond, quoi. Quitte à, justement, à ce que ce soit too much. Et, parce que... Redman, niveau comédie, il a souvent l'habitude de faire des trucs qui vont un peu chercher dans le dérangeant, des trucs dans ce genre-là. Mais là, c'est vraiment... Ouais, je sais pas si vraiment ils avaient le temps de recorriger les choses. Il y a des choses, je pense c'est trop brut, quoi.
En fait, quand ils sont dans la pure comédie, ça marche plutôt pas mal, moi, quand il va dans son... Tu vois, à un moment donné, Schwarzenegger, il va dans une espèce de retraite pour femmes enceintes, un truc hospitalier pour femmes enceintes, et du coup, il se déguise en femme. Et là, je trouve que, pour le coup, la carrure de Schwarzenegger est vraiment bien utilisée, parce qu'il y a un vrai contraste entre son déguisement de femme et sa carrure d'homme bodybuildé. Et là, je trouve qu'il y a un truc un peu marrant, quoi. Et je me dis... Pourquoi pas avoir utilisé ça un peu plus tôt, plutôt que de répéter de manière incessante c'est même pas des gags, mais le script sur le scientifique qui fait ses expériences. Alors que là, tout d'un coup, on est dans la vraie pure comédie, et je trouve que là, il y a un truc qui marche, quoi. C'est pas non plus la grosse poilade, mais ça m'a fait marrer de le voir.
Je suis d'accord, mais aussi, ils font un gros, gros montage musical, ils en rajoutent des tonnes, etc., donc tu finis par rigoler, quoi. C'est pas un truc où tu vois le concept quand il arrive à la clinique et qu'il est déguisé en femme, enfin, déjà, bon, ça, tu rigoles pas, moi, j'étais consterné. Mais après, au fur et à mesure, en fait... que tu le vois en montage, en fait, montage en train d'interagir, c'est pas mal.
Rien que la gueule de Chorzy quand même avec sa perruque, c'est quand même drôle, quoi. tu te dis qu'il faut voir ça une fois dans sa vie.
C'est ça. Et puis qui t'explique avec beaucoup d'émotion que c'est parce qu'il a été entraîné trop longtemps au lancer de poids et machin.
Mais j'ai trouvé ça drôle. Moi, ça m'a fait rire, ça.
Il y a des moments drôles, en fait, où il joue à fond le... un peu couple, où on joue à fond la blague du...
Pour tout dire, quand il fait son entretien, forcément, les gens se demandent pourquoi cette femme a une carrière comme ça. Il dit que c'était une ancienne athlète d'Allemagne de l'Est. Donc, elle a été blindée de stéroïdes et de... Et donc voilà, mais ça fait une scène assez drôle, je trouve.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ou alors les petits trucs de les réactions, on va dire, de, entre guillemets, de clichés de femmes enceintes qu'il peut avoir, et espèce de petit couple qui se crée avec De Vito, c'est drôle dans le décalage, quoi. C'est par moments un peu cringe, mais juste à la limite.
Ouais, mais en fait, c'est vraiment le genre de truc, je me dis, ça aurait pu venir un peu avant. Et après partir dans un vrai délire, quoi, dans le et plutôt que de, parce que mine de rien, ça c'est répétitif avant, quoi. Et heureusement que tout d'un coup il y a ça pour relancer un petit peu le film, parce que malgré tout, on est toujours un peu, sinon on est toujours dans le même rythme, on est toujours dans le même type d'humour, entre guillemets. On est toujours dans la... Enfin, il se passe pas non plus des tonnes de choses hein, dans ce film. Hein.
Non, finalement, il se passe... Il y a des choses qui sont... Ben, tu t'es fait un bobo, oui. Il y a des choses qui se passent très très lentement, alors que ça devrait être traité plus vite, et des choses qui sont peut-être un peu bâclées, genre l'idylle qui se crée... Ben si. L'idylle qui se crée, en fait, elle est un peu bâclée, je trouve.
Ah oui, oui, totalement. On sait pas pourquoi. Enfin...
Alors que c'est quand même important.
Ouais, non, c'est sûr. Enfin, finalement, il se trouve assez rapidement. Il y a pas du tout de conflit entre Emma Thompson et Schwarzenegger. Enfin, c'est vraiment, on décide de les mettre ensemble dès le début, quoi. Et puis voilà, quoi. On voit venir le truc gros comme une maison assez rapidement.
Mais c'est ça, c'est juste vraiment l'excuse, quoi. Elle est là parce qu'il nous fallait un embryon, une raison d'avoir un embryon humain, quoi.
Ouais.
Pas un embryon, une ovule. Je me trompe. Parce que l'embryon, c'est après. voilà. Là, l'embryon, c'est à cause du nom de monsieur Florian qui va nous expliquer tout ce qui n'a pas été pour lui et pourquoi ça a été un calvaire.
Alors, ça n'a pas été un calvaire, c'est juste que le... Oh. C'est pire... Non, c'est le pire truc qui puisse arriver, c'est pas que ça soit un mauvais film et que je trouve ça atroce, c'est que je me fasse chier devant. Et en fait, c'est ça le pire crime de ce film, c'est que j'ai regardé ça. Enfin, pour moi, ça s'est passé, ça a glissé sur moi comme pas possible. En fait, j'ai trouvé le film d'un ennui à mourir. Et en plus, avec tous les quelque part, c'est un film qui est relativement compétent et tout. Et je me dis. T'as une super musique de James Newton Howard en fait qui accompagne chaque moment musical et tout, donc t'as des super montées, t'as des super moments d'émotion et tout qui sont mis au service de quelque chose qui pour moi fonctionne pas, donc je suis un peu d'accord avec Olivier. Je trouve que l'idée générale qui est de, je sais pas, caster Schwarzenegger l'équivalent voilà du l'alpha male et en faire quelque chose qui soit qui voilà et lui faire traverser tout ce genre d'épreuves, je sais pas, je trouve que c'est Schwarzenegger, j'ai pas pu m'empêcher de dire tout comme Olivier qu'il était mal casté et que il était là justement parce que il a son alchimie avec De Vito a super bien fonctionné dans Jumeau. Mais pour moi, enfin, c'est le principal défaut du film, c'est que le gros défaut, enfin, dès les 15 premières minutes du film, en fait, je me suis posé une question qui m'a jamais forcément lâché. Je vois toujours pas quelle est la motivation de Alex S pour, à part se faire embobiner par De Vito et louper son avion et donc essayer éventuellement de sauver son job et d'être un chercheur reconnu, etc. Je vois vraiment pas quelle est sa motivation, on va dire, personnelle et intime pour accepter cette expérience. Et je trouve que c'est un truc qui est, une fois que, si tu veux, ils implantent l'ovule, si tu veux, ça va de pair et tu oublies un tout petit peu ce qui se passe parce que il décide que à partir du moment où où en plus de l'ovule en fait on lui il doit prendre des hormones féminines, etc., on va lui faire en fait traverser tous les sauts d'humeur et tous les sauts émotionnels d'une femme enceinte en fait, et c'est ça l'idée maîtresse du film. Et quand je me suis rendu compte de ça, en fait, je me suis dit, mais en fait ce personnage il n'existe pas, en fait c'est un truc sur lequel on va plaquer des sauts d'humeur de femme enceinte. Et donc j'étais là et quelque part je m'attendais à un tout petit peu tout ce qui s'est passé dans le film, tu vois, j'ai le genre check out du film, quoi, tu vois. Alors c'est ça qui est sympa, c'est que depuis la semaine dernière vous avez mis la webcam en fait, donc je vous vois m'écouter, et je vois que vous vous faites chier en train de m'écouter en fait, c'est énorme.
On t'écoute et en fait c'est ce que tu dis est vrai, c'est que tu as ta suspension de crédulité qui est complètement biaisée dès le départ, et ils essayent de vaguement expliquer ça parce qu'il a toujours rêvé d'avoir un enfant. Malgré ça, tu as envie d'avoir un enfant, tu adoptes, tu ne te mets pas en. Enfin, tu
ne passes pas par les fleurs.
Il ne faut pas oublier quand même que voilà, c'est un moment.
J'y crois pas, enfin.
Ouais, moi non.
Mais un autre truc quand tu n'y crois pas, c'est que la médecin a fini par accepter parce que elle n'a pas le choix, c'est trop tard, maintenant c'est fait. Mais moi, je suis pas une femme, mais je pense qu'une femme serait extrêmement en colère de ne pas vivre ça.
Bah, surtout, je pense que
ça se termine en procès, quoi. Ça, pour moi,
ça termine en procès. Oui, c'est ça. En vrai, ça termine en procès. Ça termine jamais en histoire d'amour. Oh, c'est génial. Oui. Voilà, on a un enfant ensemble. Mais bon, après, c'est vrai que c'est le cinéma, c'est la comédie.
Déjà, le gars n'a pas d'utérus. Hein. Donc, l'ovule, tu l'implantes globalement.
Il y a une cavité quelque part.
C'est pas où, même mais... au-delà de l'impossibilité scientifique, en fait, il y a aussi quelque chose
je pense qu'ils ont pris le parti. Je disais tout simplement qu'effectivement, ils expliquent qu'en fait, à partir du moment où ils n'ont rien expliqué, où ils étaient dans le côté totalement peu plausible du truc scientifique, je pense qu'ils ont pris le parti de rien expliquer et de rien avoir de plausible, y compris dans les réactions des personnages, quoi.
Oui, je pense que c'est ça. Au bout d'un
moment, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect du film, c'est quelque chose qui est une tentative, on va dire, clairement une tentative d'inversion des genres, mais il y a aussi en filigrane en fait une évolution de la relation interprofessionnelle entre De Vito, enfin le personnage de De Vito dont je me souviens plus du nom, et de Alexès, donc de Schwarzenegger, le dernier tiers du film, en gros, ce sont des papas gays, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre, mais pas trop, parce qu'il faut quand même la fin sucrée à la Hollywood, en fait, où chacun a sa belle fin. Et donc, du coup, le personnage secondaire de la femme qui s'est faite mettre enceinte par le coach de Aerosmith, le coach physique de Aerosmith, est là pour, entre guillemets, que De Vito puisse avancer un tout petit peu dans sa vie et se rabiboucher avec son ex-femme. Donc il y a ça, mais le dernier tiers, tu as quelque chose où ils essayaient de faire quelque chose où, en fait, ce sont des papas gays, quoi. Donc, mais ils n'assument pas jusqu'au fond, quoi.
C'est ça, ils veulent montrer des choses, mais ils n'assument pas parce que ils ont peur de pas bien faire, mais voilà, ils essayent plein de choses et ils ne vont jamais
ils veulent rester dans un truc de farce, en fait, c'est ça. Ils veulent rester vraiment dans un truc de farce, et c'est ce que tu sens.
Pour autant se moquer des gens qui sont en train de montrer, tu vois. J'ai l'impression aussi qu'ils savent qu'ils sont toujours à la limite de... on risque d'être
c'est ça le problème, c'est qu'on passe notre temps en fait pendant tout le film à nous dire est-ce qu'ils se moquent de, enfin, et par exemple le féminisme, clairement ils reprennent des phrases et des codes du féminisme et ils les mettent dans la bouche de Schwarzenegger dans des contextes qui sont pas forcément les bons. Et en fait, pendant tout le film, on se demande si c'est pour s'en moquer ou si c'est pour aller dans ce sens, dans leur sens, en fait. Et moi, je pense que c'est pour aller dans leur sens, pour montrer justement que c'est pas facile d'être enceinte,
D'ailleurs, il y a une phrase qui le dit, hein. Il dit ouais, elle râle toujours parce que elle aimerait bien nous y voir à leur place, etc. Et maintenant que tu y es, elle râle parce que
c'est De Vito qui le dit, en fait.
Voilà. Et je pense que c'est la phrase où justement il montre que, enfin voilà, ils sont, c'est là le moment où c'est un peu flou, quoi.
Bah oui, c'est ça, en fait.
À chaque fois, c'est maladroit, en fait. Tu sais jamais si tu dois en rire ou si c'est un peu plus sérieux, et du coup, ça perd un peu de son propos, quoi.
Mmh. Ouais, en fait, moi, typiquement, cette phrase-là, en fait, pendant tout le film, je me dis, c'est bien, c'était en 94, ils reprennent justement le discours féministe et tout, je trouve ça pas mal. Et en fait, cette phrase-là, justement, elle a semé le trouble un peu dans mon esprit, parce que je me suis dit, d'accord, en fait, c'est en gros, les femmes, c'est toutes des grognasses qui n'arrêtent pas de gueuler tout le temps, quoi. Donc, qu'elles soient enceintes ou pas, d'ailleurs. Et là, du coup, je me dis, Alors, est-ce que c'est juste maladroit ou est-ce que... Enfin, voilà, c'est... En fait, je pense que c'est ça aussi qui perturbe, qui fait qu'on rigole peut-être pas comme on devrait rigoler, c'est qu'en fait, le discours, il est pollué par cette maladresse constante et par cette interrogation qu'on a tout le temps en train de se dire... Et même pour le coup des papagais, tu vois, enfin, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est du... Est-ce que c'était... parce que dans les années 90, c'était assez courant hein, qu'on se moque des couples gays... de manière gentille, mais ça restait quand même un peu de la moquerie. Donc là, clairement, le clin d'œil, il est pas, c'est pas un clin d'œil qui est hyper cool, quoi.
Non, clairement pas. Et puis t'as des, il y a pas mal d'errances, c'est pas mal de choses maladroites. C'est ça, en fait. C'est des maladresses dans la construction, dans ce qu'ils veulent montrer, dans ce qu'ils ont voulu. Je sais pas dénoncer, mais le message qu'ils ont voulu faire passer, et ils osaient jamais vraiment y aller, donc ils finissent par faire pas mal de maladresses et faire, comme tu disais, Florian, un film qui nous passe dessus, quoi, qui a peut-être nous on a eu plus de moments où on a eu des sourires ou pas forcément des rires francs, mais c'est un film qui passe. Ouais. Et puis voilà.
Moi, en fait, j'aurais préféré qu'ils aillent carrément dans la comédie pure, quoi. Parce que dès qu'ils y vont, dès qu'ils mettent un petit peu le pied dans la comédie, je trouve que j'ai pu sourire assez facilement, quoi. Donc, notamment avec les gaffes du personnage d'Emma Thompson, qui m'ont bien fait marrer, quoi. Et je trouve que c'est des petits clins d'œil par-ci par-là. Et j'aurais aimé qu'ils y aillent plus, en fait, parce que la situation se prête à ça. Tu pars dans une histoire complètement farfelue, bah vas-y, quoi.
Ouais, fais-le à fond, quoi, on ne le fait pas. Et on sent que c'était vraiment le film, c'est le dernier film du trio. Et puis voilà, ça a pas marché, tant pis, quoi.
Mais tu vois, on voit avec l'évolution que, tu vois, Jumeaux, ça commence comme une comédie d'action et puis ça se transforme en quelque chose d'assez touchant, assez émouvant entre les deux. Mmh. Et après, on a Un flic à la maternelle où ça commence comme une comédie d'action et puis il y a un moment donné où l'action prend un peu plus le pas et ça devient plus drôle. Et ça fait une deuxième partie de film qui est un peu moyenne. Et du coup, tu arrives au troisième film où tu as encore moins de bons dans le film, quoi. Donc, finalement, leur système, il s'est émoussé assez rapidement, en fait, sur les trois films, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, quand on regarde un peu la filmographie de Reitman, c'est un tournant dans son genre de comédie, en fait. Parce qu'on a eu, voilà, on a eu Jumeau qui a ouvert le bal. Bon, il y a une petite interlude SOS Fantôme 2. Mais après, ça a été Jumeau, Un flic à la maternelle, Président d'un jour et Junior. Qui, globalement, c'était toujours un peu le même système. C'est-à-dire qu'on a une personne qui se retrouve dans un endroit où il ne devrait pas l'être. Enfin, c'est vraiment ce genre-là. Et puis après, on part sur des trucs genre Drôle de père, avec Billy Crystal, dont on parlait tout à l'heure, justement, et Robin Williams, qui n'a vraiment plus rien à voir, parce que je pense que c'est même un remake d'un film français avec Depardieu et je sais plus qui, peut-être Pierre Richard, justement. Mais voilà, ça part sur plein de choses, t'as évolution, mais il n'y a plus, à partir de ce moment-là, il n'y a plus la même construction du film de une personne qui se retrouve dans un...
C'est dans basé la peau sur les compères. Hein. Le film avec Crystal, c'est basé sur les compères de Francis Weber. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est avec Depardieu.
Avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, tout à fait.
Ah ben voilà, donc c'est ça. Donc, mais bon, voilà, les deux films sont n'ont rien à voir dans la construction. Il y a vraiment eu un truc de construction de ça, et puis après, bon bah voilà. Et à chaque fois, c'était des films où il y avait Schwarzenegger qui était là, parce que Président d'un jour, en fait, Schwarzenegger fait un petit passage. On l'a pas vu parce qu'il joue son propre rôle, mais. Voilà, il fait un petit passage quand même. Mais et je pense que pour Schwarzenegger, à part la course aux jouets, c'est aussi un point d'arrêt quasiment sur ce genre de comédie. Hein.
C'est son avant-dernière comédie, hein, je pense, hein, pré-hiatus. Parce qu'il a fait... Oui, voilà. Je crois qu'il a fait, plus récemment en comédie, il a fait Kill Gunther avec Taran Killam, je crois que c'était lui.
Ouais, mais bon, c'est une fille qui
voilà, t'apparaît. Et ça, c'est récent, mais je crois que c'est
la première. Il n'y avait pas le truc le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan aussi.
Ouais. Mais il fait pas, il joue, enfin il a un petit rôle, mais il joue pas dedans, en fait. C'est pas ça, c'est pas la star.
Non, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est des petits rôles. Il y a plus vraiment. Je revérifie derrière tout ça.
Non, je crois que c'est l'avant-dernière.
Après, Expandable, c'est des actions, c'est des trucs d'action drôle, quoi. Mais
ouais, mais c'est des trucs d'action. Enfin, c'est avant tout un film d'action. Killing Gunther, c'est plus un film d'action pastiche. Et bon, c'est fait à la comédie, en fait. Hein. C'est un truc.
Ouais. C'est une comédie d'action. Bah, Batman et Robin, éventuellement, c'est une comédie, quoi.
Ouais, mais c'est involontaire. Je pense que c'est involontaire.
Non, mais c'est vrai qu'après Junior, il y a qui se jouait.
Ouais, c'est ça.
Il y a une petite pause avec les faceurs, mais après il y a la course aux jouets, et puis après c'est.
Je pense que ouais, c'est déjà ils voyaient le truc décliner largement avec Junior, et puis la course aux jouets a été là.
C'est bon, le grâce, quoi. Tu parlais de hiatus, je suis désolé, hein, quand je regarde son truc, s'il a fait le plus grand hiatus qu'il ait pu faire, c'est 5 ans. c'est entre The Kid and I et le premier Expandables. Sinon, il n'a pas arrêté de faire des trucs ou des apparitions au moins.
Non, c'est que des enfin du coup c'est que des apparitions. Après Terminator, il a arrêté, mais aussi parce qu'il avait la carrière politique, quoi. Mais dès que
après Terminator 3, oui, effectivement.
Ouais, c'est ça, donc 2003 à 2012. Oui. Et tout le reste, le film avec Jackie Chan sur le tour du monde en 80 jours, c'est juste une apparition amicale et tout. C'était pas du tout.
C'est vrai que Expandables, je crois que le premier, c'est juste une apparition aussi. C'est dans
ça, c'est à la, fin de, à la toute fin du film, en fait.
Ouais.
Mine de rien, ça fait 9 ans de pause, quoi, ou avec juste des petites apparitions.
Bon, c'est vrai qu'il était occupé politiquement. Voilà. Hein, gouvernateur.
Il peut pas tout faire en même temps. Hein.
Pas tout faire. Mais voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on sent que Junior est un vrai tournant. Que tout d'un coup, le système Schwarzenegger commence à s'effondrer, en fait. Alors, peut-être pas dans des proportions énormes, mais on sent que malgré tout, ça a pas fait des recettes incroyables. Un film ne peut plus être vendu que par le nom de Schwarzenegger. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure des films qui vont suivre que effectivement
il y a vraiment eu ce pic, en fait. Hein.
Pardon.
C'est ça. Il y a eu vraiment le pic Schwarzenegger et puis la descente, quoi.
C'est, ah oui, c'est ça. Ça, ouais.
Ça suffit. Mais plus, c'est toute la deuxième moitié des années 90, c'est dur pour toutes les stars du planète Hollywood. C'est-à-dire que Stallone, Willis et aussi Sharon Stone dans une moindre mesure, c'est tout la descente aux enfers, quoi.
Ouais. Ils sont devenus passés de mode d'un seul coup, en fait.
Ouais.
Oui, c'est ça. Et je ne sais pas quel genre de film réellement passait devant. Peut-être la scène un peu plus américano-asiatique peut-être est arrivée. Avec Jet Li, tout ça, c'est à ce moment-là, peut-être.
Mais je pense que... 96 à 99, il y avait. Enfin, 99, t'as Matrix, donc t'as toute une relance du film d'action et tout par rapport à ça. Mais je pense, en termes de genre, l'expert avec Stallone et Sharon Stone, je pense que c'est sorti à un an près, la même année que l'Effaceur. Et voilà, et c'est deux trucs où c'est des sorties de route, quoi.
Ben, par exemple, il y avait aussi L'Arme Fatale 4 qui est arrivé au même moment.
Hein. C'est ça, 98.
Voilà, donc c'est c'est
ça. Moi, je pense que c'est plus ce genre de film, ouais. Parce qu'effectivement, 99 va être un vrai tournant dans le cinéma, mais bon là avec Junior, on est en 94, donc il y a quand même 5 ans où même quand tu vois que même les films de tu vois, même quand un Van Damme, il n'est pas au mieux non plus, hein. Donc
c'est ça la période, effectivement.
Ouais, c'est tu sens que t'as tout le cinéma d'action hollywoodien qui est un peu en,
c'est ça, en recherche d'un second souffle. Et Titanic est pas vraiment un film d'action, quoi.
Ah oui, c'est pas du tout un film d'action, c'est vraiment un truc différent, quoi. Le cinéma hollywoodien est obligé de un peu se réinventer et de sortir des standards de l'action un peu idiote, amené n'importe comment.
Une sorte de nouvelle vague apportée par le cinéma indépendant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, effectivement, Schwarzenegger en souffre parce que avant, en fait, il choisissait un peu n'importe quel projet et puis ça se montait sur son nom et puis et là, ça fonctionne pas forcément tout le temps, quoi.
Par contre, un truc que j'ai remarqué avec les affiches du film, notamment si on met côte à côte Junior et le film d'avant de Redman, donc Président d'un jour, on a cette construction un peu d'affiche à la comédie française.
Ouais.
qui se fait maintenant, dans les années 2000-2010, la comédie française, le fond bleu avec les protagonistes qui sourient face à l'appareil et le titre, voilà, c'est vraiment ça, chose qu'ils ne font plus par la suite, mais que ça a été repris. Je me suis dit, en fait, c'est une comédie française, mais 10 à 15 ans plus tôt, quoi. Mais je n'ose même pas imaginer qui... Enfin, si, ça aurait été Thierry Lhermitte, effectivement. Enfin, voilà.
Pour le coup, il aurait été meilleur. Autant en agent secret, oui. Espion, il était...
Ouais.
Il était moyen, autant en scientifique, il aurait été pas mal. Hein.
Alors, Thierry Lhermitte et Boujna.
Boujna, ouais, dans le rôle de Vito.
En fait,
comment il s'appelle encore ? C'est un gars qui fait pas mal de voix, qui était dans... 9 mois aussi. Comment ça s'appelle Ah là là. Il a une voix déconnue parce qu'il fait beaucoup de trucs dans les Simpsons, tout ça aussi.
Mais je ne sais pas.
Ah, c'est peut-être pas 9 mois aussi, c'est 9 mois et demi. C'est une comédie française. Ah, je vais essayer de le retrouver.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir Miu Miu à la place d'Emma Thompson? Parce que là, je suis pas prête.
Non, garde Emma Thompson, elle sait parler français.
Bon, ça va alors.
C'est ça, mais... Ah merde, je retrouve plus le film. C'est la même période en plus. 9 mois, si, voilà. 9 mois, ça s'appelle, c'était 94. Et c'était donc, il y avait... c'est réalisé par Patrick Braoudet. Patrick Braoudet, on est très bien. Mais je pensais à Daniel Rousseau.
Ah oui.
Ah oui.
Tout simplement parce qu'en fait, je crois que c'est lui qui fait la voix de Vito en français. Je pense que c'est lui qui fait la voix de Vito.
Je propose qu'on fasse une petite cagnotte et puis, et puis on lance la production.
Ah mais ils n'ont plus le même âge. Hein.
Oh, c'est un détail. Écoute, ouais.
C'est Daniel Rousseau qui fait sa voix à De Vito, donc c'est pour ça que ça me paraît bien collé. C'est parce que j'ai sa voix en tête et il a une voix assez marquante. Et justement, quand j'ai regardé le film, bien entendu, encore une fois en français, il y a à un moment donné, il est au lit et il, je crois que c'est au lit, oui, c'est ça. Et il voit en fait une pub avec une enfant qui danse, avec une chanson, avec un chanteur. Je sais pas ce que ça donne en anglais, j'ai pas pu le voir. Mais en français, j'ai l'impression qu'ils ont pris un imitateur de Claude Barzotti. Donc les connaisseurs souffrent. Et c'est horrible, le doublage il est horrible. Tu sens que le gars il est en roue libre. On lui a dit tu chantes un truc avec une voix rocailleuse alors que t'as pas la voix rocailleuse et ça passera. Et ouais. Ça casse tout, mais ça casse absolument tout. Donc je sais pas du tout ce que ça donne en anglais, mais en français c'est un moment de what the fuck, mais total, vraiment total. Enfin voilà. Puis sinon pour le reste, le doublage est très bon. Hein. C'est les voix classiques attendues, donc bon, ça passe bien, ça passe très très bien. Et dernière chose que je voulais ajouter, c'est Pamela Reed. Deux films avec Schwarzenegger, deux films de Redman, deux fois elle finit enceinte et en accouchement à la fin du film.
Je crois que Redman avait envie de la mettre enceinte.
Ou alors elle a juste dit, j'ai envie de revivre ça encore et encore et encore.
Et puis...
Mais juste le jouer. Juste le jouer.
Ouais.
Enfin voilà, je pense que, je sais pas Elodie, toi si t'as des choses à ajouter par rapport à tout ce que l'on a déjà dit.
Non, bon, on a fait le tour, hein. C'était gênant à regarder.
On a réussi à faire une heure là-dessus quand même.
Une heure à dire, c'est gênant.
Et tout ça sans parler de Christopher Meloni avec des cheveux à la Mel Gibson.
Sans oublier une petite apparition de Anna Gunn de Breaking Bad, en fait, en une des deux infirmières, des deux employés de
la maison
de prénatalité.
Oui.
Je ne m'ai pas capté.
Ah, si, je l'ai vu, ouais, je me suis fait la réflexion.
Et c'est vrai que Christopher Meloni, qui est là en tant que mari, qui comprend rien à rien, et qui, globalement, dans le film, on le voit, c'est tout. Je pense qu'il dit un ou deux mots, mais ouais. Il dit quasiment rien. Non,
on est juste épaté par cette chevelure magnifique, où on se dit qu'il aurait pu jouer dans L'Arme fatale, il aurait été parfait.
En fait, oui, sauf que là, c'est L'Arme fatale avec un Mel Gibson qui commence à devenir chauve. Parce que là, il a les cheveux longs.
Il a le front dégarni, quoi.
Ah oui, ça recule bien, quoi. C'est les cheveux longs du dernier espoir.
Et non, il n'a pas fait ce fameux rabattage pour cacher.
Non, c'est vrai qu'il aurait pu.
Non, là, il l'assume, ils sont bien un peu en l'air et tout, c'est nickel. je sais pas pourquoi il a pas continué dans le.
En fait, il a pas la Mel Gibson, il a plutôt la Seinfeld.
Oui.
Ouais, mais c'est plus long quand même. Donc, c'est un peu entre les deux, quoi, tu vois.
Ouais. C'est spécial.
Ouais, on ne sait pas trop comment définir ça.
Moi, je voulais quand même, avant de boucler, parce que Frédéric s'apprête apparemment à boucler, je voulais quand même parler limite du générique de fin, c'est de la
réflexion. Oui, bah oui. Si.
Voilà. Donc, c'est Sinatra et Bono, et du coup, j'ai été. Effectivement, j'avais pas du tout capté au générique de fin, en fait, que c'était un duo Sinatra Bono et tout, donc je l'ai découvert avec ça, et après j'ai été voir que ça venait d'un album de duo virtuel de Sinatra et Bono, donc je tiens à rassurer les auditeurs, l'album duo est sans doute meilleur que cette espèce de collage en fait entre les voix de Bono et la voix de Sinatra qui est à peu près aussi dérangeant que le film lui-même.
Mais déjà un point, la voix de Bono, voilà. Je vais pas me faire des amis avec les fans de U2, mais bon, si t'es fan de U2, ben, faut penser à ta vie, hein, un petit peu. Mais là, c'est surtout
pas
que.
Pas du tout U2, hein.
C'est surtout qu'en fait. C'est surtout que là, c'est en gros, c'est Bono qui essaye de faire du crooner avec une voix qu'il n'a pas. Et avec ces grimaces de voix qu'il avait surtout au début et qu'il a poussé, mais alors les potards à 11. Et c'est juste, j'ai envie de le dire, mais t'as l'impression que c'est un gars qui était à un concert de Sinatra, qui est monté sur scène, qui a piqué le micro, qui a fait c'est bon, je chante aussi. barre-toi, Francky, hein, c'est moi qui chante maintenant. Et puis bon, bah, Francky, là, bah, moi, je suis un peu vieux, je vais te laisser faire. Hein, surtout qu'il a été un peu mort, mais
il était pas mort. Le truc, c'est que c'est que je pensais, tiens, c'est un duo posthume et tout. Et en fait, non, je me suis rendu compte que pas du tout. Sinatra, il est mort en 98 et tout, mais il a enregistré deux albums de duo en fait. Mais le truc, c'est qu'il les a enregistrés totalement, enfin à l'arrache en fait, à Capitol Studio. Et ensuite, avant Internet et tout, ils ont fait en sorte de coller les voix et de pré-enregistrer les voix et dans certains cas de faire des performances à distance en fait. Donc il y avait une autre genre une Aretha Franklin de l'autre côté et tout, et ils envoyaient les voix en direct pour faire un espèce de duo virtuel avec Sinatra. Le truc, c'est que ça s'est fait de son vivant en fait, tu vois. Le truc c'est que la gueule des guests et tout est beaucoup mieux, enfin est beaucoup Et enfin, il y a des meilleures idées que qu'aller chercher Bono sur les albums.
Clairement, tu as, il y avait Willie Nelson qui était dedans. Je pense qu'il y avait même Charles Aznavour.
Je vérifie. Effectivement, Charles Aznavour sur un titre arrangé par Quincy Jones, en fait.
Voilà. Bon, après, t'as des gens que tu attends aussi en duo avec lui. Je vais hop revoir un peu dans Spotify. Ouais, bah, t'as Liza Minnelli, t'as Natalie Cole. Mais et puis t'as au milieu t'as Bono du tout quoi, entouré par des voix qui correspondent un peu plus et surtout en fait le problème c'est que Bono s'il ne fait pas ses grimaces peut-être ça passe mais j'entends
pour moi il est pas à sa place hein. D'ailleurs je pense pas qu'il
il chante pas il chante non il est pas à sa place du tout Non, et puis c'est en plus ça, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Sinatra. Donc c'est I Got You Under My Skin qui moi, j'aime vraiment beaucoup cette chanson-là et il te la gâche. Mais c'est une boucherie sans nom, quoi. C'est pas la boucherie sans eau, c'est la boucherie sans nom.
Et par contre, la chanteuse qui apparaît dans la scène du congrès médical, en fait, alors que Schwarzenegger et Thompson dansent, c'est la chanteuse de jazz Cassandra Wilson, et ça fait plaisir. Ouais.
Ah oui, parce que c'est vraiment c'est une vraie chanteuse. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une vraie chanteuse, une excellente chanteuse de jazz, super cool et tout. Et ils auraient pu clairement chercher, je sais pas, un groupe random et tout, avec un chanteur derrière dont on se fout et tout, et ils ont quand même été chercher Cassandra Wilson, donc c'est plutôt pas mal et ça ajoute à l'ambiance romantique. Encore une fois, en fait, c'est un film qui est monté, qui est assemblé de manière plus compétente que le résultat final, quoi.
Bah ouais, c'est ça.
En termes musicaux, enfin, je répète, hein, mais le score de James Newton Howard, pour moi, ça a failli marcher, etc. Je me dis, tiens, c'est une super musique hollywoodienne, c'est... Il y a des gens qui font ce job, qui font leur job dans ce film, en fait. C'est ça qui est dommage.
Je pense très franchement, comme on disait au départ, si c'était donc le réalisateur de Beethoven qui était là-bas, on n'aurait pas eu le côté « j'essaie de faire passer un message », etc. On aurait eu la comédie familiale basique. Et peut-être qu'en fait, on aurait eu un truc, pas la meilleure comédie du monde, mais un truc où on aurait ri de bon cœur et un peu plus, qui suit un cahier des charges. Et donc, peut-être un peu plus droit dans ses bottes, tandis que là, c'est juste des potes qui se font plaisir. Et c'est, tiens, et si tu faisais une scène où tu vomis ? Ok !
C'est ça, et je pense sincèrement qu'avec un autre réalisateur ou avec un autre producteur, ils auraient osé dire non à Schwarzenegger et essayer de trouver quelqu'un d'autre, en fait. Pas faire en... Enfin, le truc, c'est ça, c'est que, étant donné que Schwarzenegger était la star qu'il était, en fait, c'est ça, c'est lui qui a poussé pour faire ce projet, il était avec Universal, il voulait faire ce projet, donc... Voilà, ça s'est monté comme ça, mais clairement, c'est pas un projet qui était fait pour lui, quoi.
Parce qu'à la limite, on prend Christopher Meloni, on met à sa place, ça passe. Hein.
Allez, carrément.
Hein. Bah, je vais chercher dans les acteurs qui sont déjà là, toi, ils sont là, on va les utiliser. Parce que De Vito me semble très bien casté là-dedans.
Oui, De Vito, il fait le job.
Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient l'avoir en tant que
gynécologue. Ah non, je ne pense pas. Enfin, Elodie, qu'est-ce que tu en penses ?
Non.
Voilà, mais toi, c'est peut-être lui le moins mal casté, parce qu'après, Emma Thompson fait très bien son boulot, même s'il devient très vite un comic relief plus qu'autre chose. Mais ouais, c'est sûr, c'est des gars qui ne vont pas là-dedans.
Ben oui, moi je pense que tout... Enfin, c'est la première brique du truc, c'est Schwarzenegger.
Même Stallone, ça aurait pas été, quoi.
Enfin, la fondation, oui, non, ben non. La fondation du film, c'est quand même Schwarzenegger, et cette fondation, elle est déjà pas bonne, donc forcément, après...
Billy Crystal.
Je pense que ça aurait été carrément mieux.
Ben attends, Billy Crystal, si.
C'est franchement, ça aurait... Déjà, en fait, on y aurait cru... dès le début, donc forcément tu rentres dans le film, tu t'es pas là à te poser des questions, mais pourquoi il est aussi musclé ce mec, quoi.
Bah ouais.
Et donc déjà tu rentres dans le film d'une autre manière que la manière dont nous on est rentré.
Robin Williams.
Ou Robin Williams, ouais.
Yeah, en fait. Donnez-nous le casting, on va vous le refaire le film. Parce que c'est vrai qu'il y a moyen de trouver des gens quand même qui font.
Il y en a plein.
Sans avoir l'impression que c'est le côté.
Et je pense que la dernière personne que j'aurais mis là-dedans, c'était Schwarzenegger, quoi.
Ah bah clairement. ou dans le même genre, quoi. Dolph Lundgren, quoi, par exemple. Un petit Dolphy. Un petit Dolph Lundgren dans Junior 2. Le retour.
Je leur donne pas des idées.
Et globalement, ils avaient l'idée parce qu'ils ont dit tiens, je referais bien un enfant. Oui, mais il faut. Ils regardent tous Danny DeVito. Ouais, mais non, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Il sera plus grand que moi à la sortie.
En fait, c'était plus drôle si c'était DeVito qui avait été enceinte.
Mais oui.
Je te refais un petit cul de Vito.
C'est pas bien. C'est pas bien. Enfin, on va rester sur ces bonnes paroles.
Je sais pas.
Il faut maintenant qu'on classe.
Pour ce 18e épisode, et donc ce 18e film à classer.
Ça commence à être compliqué. Alors, ouais,
je pense pas qu'il va aller dans le haut cette fois-ci. Hein.
Non. Alors, du premier au dernier, on a Last Action Hero, Terminator 2, Total Recall, Twins, Terminator 1, Un flic à la maternelle, Predator, True Lies, Stay Hungry, Road Deal, Commando, Running Man, Cactus Jack, Red Heat, Conan le Destructeur, Conan le Barbare et Hercule à New York.
Alors déjà, je pense que je vais mettre juste en dessous Stay Hungry.
Ouais, pareil. C'est juste au-dessus de Road Hill et juste en dessous de...
Road Hill ? Non, Reddit. Non, Road Hill. Road Hill.
Oui,
Road Hill de Ray.
Moi, ouais,
non, clairement au-dessus de... Ouais, juste, à, juste avant.
Stay Hungry et Road Hill.
Alors, ouais. Elodie.
Je réfléchis parce que, en fait, ça dépend sur quoi on se base. Sur la qualité du film en lui-même ou sur est-ce que j'ai passé, à quel point j'ai passé un mauvais moment devant.
Je pense que c'est plus ça que l'on juge réellement. C'est est-ce que...
Oui, oui.
D'accord. Parce que je pense que je... Enfin, je crois que j'ai passé un meilleur moment devant Commando que devant...
Ouais, mais le problème, c'est... Ouais.
Mais en fait, c'est tellement différent. C'est... Du coup, je sais pas. Mais sinon, je suis d'accord de le mettre entre Stay Hungry et Road Hill. Ça se joue à vraiment pas grand-chose, là.
Ouais, voilà, ça se joue dans la médiocrité, là. On est... on pourrait tout inverser, là.
Après, c'est vrai que moi, tu vois, c'est vrai qu'il a beaucoup de problèmes. Running Man me plaît plus que Junior.
Ah, je sais pas. Hmm. J'ai passé quand même un meilleur moment sur Junior que sur Running Man, mais...
Après c'est plus ouais c'est plus facile c'est plus easy listening quoi. C'est,
ouais c'est ça, c'est à dire qu'en fait Junior c'est passé tu vois.
Junior il y a même plus de deux fois où j'ai ri alors quand même
ouais. Moi aussi il y a quand même il y a alors que
Florian.
Que Running Man
très bas super bas à peu près là où vous le mettez voilà et ça sera très bien
ouais. Ouais, bon, on va le mettre. Parce que Road Hill, je t'avouerais que.
Putain, mais j'ai quasiment aucun souvenir du film, Road Hill.
Mais pareil. si, la l'espèce de course-poursuite en bagnole avec la musique dans la carrière.
Ouais.
C'est le contrat, c'est dans celui-là. C'est la fameuse.
Ouais, mais c'est. Enfin, tu vois, c'est pour ça que Junior, il me restera des souvenirs plus tard, quoi.
Ah, bah, je reverrai le visage du bébé pendant encore quelques années, je pense.
Oui, je pense que juste, ouais, c'est ça, juste après Stay Hungry, parce que Stay Hungry, quand même.
Là, je m'en souviens plus, quand même, Stay Hungry.
J'en souviens plus et je regarderai encore plus parce que. Enfin,
En fait, Stay Hungry, c'est notre bascule, quoi. C'est tout ce qui est en dessous, c'est les trucs. Vraiment,
c'est le fond du panier.
C'est des trucs vraiment, on a eu du mal à regarder quoi.
Ouais.
Bah, je regarderais plus facilement un nouveau True Lies que Junior.
Ah bah oui, il n'y a pas photo. Oui.
Stay Hungry, ouais, parce que bon, ça, c'est un peu le film de Charlie où tu te dis, bah c'est un peu plus recherché quand même que ce qu'il
a fait. Ah bah oui, oui. Non, c'est le dernier. Enfin, dans notre classement, pour moi, c'est le film qui se regarde encore, et puis en dessous, c'est les films que j'ai plus du tout envie de revoir quoi.
Et en parlant justement de True Lies, je voulais faire un petit coucou à donc Pat du podcast Be News USA qui m'a raconté qu'en fait il a été s'acheter une nouvelle voiture apparemment et le vendeur il s'est souvenu que quand il était plus jeune il habitait en Floride, il avait été bloqué dans son bus d'école, il est arrivé en retard à l'école à cause du tournage de True Lies parce qu'ils avaient bloqué le pont. J'ai trouvé l'anecdote mignonne et en même temps je me dis mais et merde tu vas expliquer ça comment.
Parce que alors, moi il y avait un hélicoptère.
Je suis arrivé en retard mais j'avais un avion qui est passé puis un hélico puis des
et là, explosions et là le pont il a explosé et il y a
c'est cela oui.
Ok, ok. Donc voilà, pour l'instant, Last Action Hero reste bien, bien en haut et très franchement.
Je pense qu'il va y rester. Franchement,
il y a peu de chances qu'il soit détrôné, même si.
Non.
Même si, je... Expendables 2. Ah, j'en ai gardé un bon souvenir quand je l'ai vu au cinéma.
Ouais, mais. Contrairement. Guilty pleasure.
Mais en fait, c'est ça. Last Action Hero, j'ai pas honte de le dire, même si j'ai jamais honte ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que Expendables 2, ça fait plus guilty pleasure qu'autre chose, effectivement. Mais c'est vrai qu'après, L'Effaceur, qui est notre prochain film.
Ah, yes. Là, on va rire, là.
Voilà. La course aux jouets, bon, voilà. Batman Robin, La fin des temps, À l'aube du sixième jour et Dommage collatéral.
Bah, on va se marrer là. Hein.
Ah, ben là, on va rentrer dans un très 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 long ça va être, tunnel.
Ça va être très drôle.
Un très long tunnel.
Ça va être très drôle.
Ouais.
Bon, bah, déjà, L'Effaceur est disponible nulle part en streaming et je vois qu'il a un score IMDb de 6.1. Voilà.
Mais il est dispo en VOD. Je te recommande très fort de l'acheter sur iTunes parce que voilà, c'est là où tu as la copie HD qui va bien.
C'est... Ah. Et puis ça vaut le coup de le voir. Ça vaut le coup de le voir en HD. Hein. C'est bien kitsch. Enfin bon, là, on va en reparler.
C'est la technologie.
Là c'est du cyberpunk magnifique.
Est-ce qu'il y a des écrans verts
En même temps, tu dis voilà, il a 6.1 sur IMDb. Sache que Junior a 4.6.
Ça m'étonne pas.
Donc,
normal quoi.
Est-ce que l'effaceur sera devant Junior et effacera de nos mémoires le visage du bébé Schwarzy? Vous serez au prochain épisode de Mon ami Schwarzy. Tu disais quoi, Florian?
Que je suis très content que en fait l'effaceur soit sorti avant la course aux jouets, parce que j'avais du mal à me remémorer. Donc très content d'enchaîner avec ça.
J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Mais bon, on se retrouve de toute façon, le plus tôt qu'on se retrouve, ce sera encore avec un film avec Danny DeVito, mais pas de Schwarzenegger. Et pas dans mon ami Schwarzy non plus. Et ouais, y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? C'est pas pareil. Bref. Et Billy Crystal. Attends, je pense que c'est ça où je confonds avec les deux films. Enfin bref, on va s'éclater. Allez, on vous dit au revoir. Courage si vous voulez regarder Junior. Hein, ça se trouve difficilement et ça se regarde, ça se finit compliqué. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné dans ce podcast un peu compliqué, mais on a fini par le faire. Et on remercie Zencaster d'avoir la fonction pause. Qui permet de poser quand on a quelqu'un qui a un problème de connexion. On ne dira jamais assez. Zencaster, je vais finir par payer l'abonnement. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Bisous.